Vous écoutez RFI et je vous en remercie. Il est 21h ici à Paris, 23h à Mamoudzou, à Mayotte.
Martin Guèze.
Comme un air de déjà-vu, la France a enfin un gouvernement d'expérience, comme l'a qualifié François Bayrou. On retrouve notamment des poids lourds de la Macronie, comme Elisabeth Borne ou Gérald Darmanin, ainsi que l'ancien Premier ministre Manuel Valls, François Bayrou, qui s'est défendu de toute influence de l'extrême droite dans ses choix de ministre il y a quelques instants sur BFM TV. Un gouvernement qui intervient au terme d'une journée de deuil national en France, drapeau en berne et minute de silence observée pour les victimes du cyclone Chido à Mayotte. 10 jours après son passage, l'aide humanitaire tarde toujours à venir dans l'archipel française de l'océan Indien. Nous irons ensuite sur le continent américain, où le président panaméen répond aux menaces de Donald Trump, des menaces qui concernent le très emprunté canal du Panama. Enfin, restez bien à notre écoute, car dans 10 minutes, vous retrouverez Claudie Séard pour Couleur Tropicale. On prend les mêmes et on recommence, ou presque, avec Elisabeth Borne, Gérald Darmanin ou Manuel Valls. François Bayrou fait du neuf avec du vieux, le Premier ministre qui a composé son nouveau gouvernement. Après 10 jours de consultation avec le président Emmanuel Macron et les différents groupes politiques, gouvernement annoncé il y a quelques minutes à l'Élysée par Alexis Kohler, le secrétaire général de la présidence. Les anciens premiers ministres Elisabeth Borne et Manuel Valls sont respectivement nommés à l'éducation nationale et aux Outre-mer. Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur, prend lui le ministère de la Justice. Bruno Retailleau et Rachida Dati, déjà présents sous Michel Barnier, conservent eux leur portefeuille, à savoir l'Intérieur et la Culture. François Bayrou qui s'est dit fier de ce gouvernement d'expérience, gouvernement qu'il est venu défendre il y a quelques minutes sur le plateau de nos confrères de BFM TV. Il réfute toute influence du Rassemblement National sur la composition de son équipe.
Il n'est pas vrai que quelque influence que ce soit exercée sur moi. J'ai trouvé que son approche sur le ministère de la Justice n'était pas la mienne. Le ministère de la Justice, ça n'est pas un ministère de guerre. C'est pas un ministère d'agression contre les uns ou les autres. Entre les électeurs de la France insoumise et les électeurs du Rassemblement national, il y a 16 millions de Français. Et je ne veux pas faire la guerre à ces 16 millions de Français.
Donc, vous ne le nommez pas pour ne pas vous mettre à dos celui qui disait qu'il voulait briser les mâchoires du Rassemblement national.
Je trouve que l'expression « briser les mâchoires » est en effet une expression de guerre.
François Bayrou, chez nos confrères de BFM TV, le premier conseil des ministres de cette nouvelle équipe qui aura lieu le 3 janvier prochain. Et le discours de politique générale du Premier ministre, ce sera le 14 janvier. Jordan Bardella, chef du Rassemblement National, dénonce ce soir une coalition de l'échec, la composition du gouvernement Bayrou, que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. L'annonce du nouveau gouvernement qui vient donc conclure une journée de deuil national en France, drapeau en berne et minute de silence. En hommage aux victimes du cyclone Chido à Mayotte, un cyclone qui a fait au moins 35 morts et sans doute beaucoup plus. Et ce alors que les habitants manquent toujours de vivres, ils manquent d'eau principalement. Les secours qui sont toujours à l'œuvre, l'État français est lui vivement critiqué pour le retard de l'aide humanitaire. Emmanuel Macron a promis une loi spéciale pour rebâtir Mayotte et mettre fin aux bidonvilles. Ce qui pourrait prendre près de 2 ans selon le Premier ministre François Bayrou. Minute de silence en tout cas respectée ce matin à 11h heure française à l'Élysée, à Matignon. Mais aussi à Saint-Denis, au nord de Paris, une centaine de personnes se sont rassemblées devant l'hôtel de ville. Et notre reporter, Baptiste Coulon, était parmi eux.
Mesdames et messieurs, en hommage aux victimes à Mayotte, je vous prie de bien vouloir respecter une minute de silence.
11h pile, après une brève allocution, les habitants se figent en silence. C'est aussi le cas des élus, vêtus de leurs écharpes tricolores sur le perron de l'hôtel de ville. De quelques pompiers de Paris également, alignés au garde-à-vous en soutien à leurs collègues mobilisés à 8000 km d'ici. Moment de recueillement et de solidarité aussi, auquel Saint-Denis se devait de répondre présent, estime Armand, un habitant.
C'est une ville cosmopolite avec tous les gens qui ont la main sur le cœur, qui sont un peu plutôt affectés par tout ce qui peut se passer, non seulement dans les territoires outre-mer, mais aussi à la métropole. Ils ont toujours eu répondu présent, que ce soit aux grands événements ou bien aux événements malheureux, auprès de tous ceux qui ont besoin, les nécessités, quoi. Donc en gros, c'est vraiment important pour la population de répondre présent à ce moment un peu plutôt douloureux.
Et preuve que la ville répond présent, se montre solidaire. Une collecte de nourriture et de produits d'hygiène a débuté ce matin à Saint-Denis. Des cartons pour certains déjà remplis de vivres, mais aussi de fournitures scolaires, prêts à partir en container en direction de Mayotte.
Un reportage signé Baptiste Coulon, l'actualité à Mayotte à retrouver sur notre site internet et dans le journal de l'Outre-mer. Rendez-vous à 22h, temps universel, dans 24 heures en France. RFI 22h05 à Maputo, au Mozambique. Daniel Chapeau a été confirmé comme nouveau président du pays. Sans grande surprise, le Conseil constitutionnel a validé la victoire définitive du Frelimo, le parti historique, alors que les contestations post-électorales ont fait au moins 130 morts. Une contestation qui pourrait encore se durcir après l'ultimatum lancé par Venancio Mondlane, qui revendique la victoire et dénonce des fraudes depuis le scrutin en octobre dernier. La crise politique sans précédent que connaît le Mozambique pourrait donc se prolonger. L'actualité africaine que vous retrouverez dans la dernière édition d'Afrique Soir, ce sera à 22h30 temps universel. Aux États-Unis, Luigi Mangione plaide non coupable de meurtre terroriste, soupçonné d'avoir assassiné en pleine rue new-yorkaise Brian Thompson, patron américain du premier assureur santé du pays, pour se venger contre ce secteur. Une affaire devenue virale aux États-Unis après une cavale de 5 jours et une arrestation surmédiatisée. Le jeune homme de 26 ans, qui est accusé d'avoir tué Brian Thompson par balle et qui a été inculpé pour 11 chefs d'accusation, dont celui de meurtre en tant qu'acte terroriste devant la cour criminelle de New York. Les États-Unis toujours, où Donald Trump a menacé ce week-end de reprendre le contrôle du canal de Panama. Érigé il y a plus de 120 ans, le président élu qui a fustigé les droits de passage imposés sur les navires américains, qu'il considère ridicule et menace donc directement le petit État d'Amérique centrale. La réponse du président panaméen José Raúl Mulino ne s'est pas fait attendre. Une réponse salée, Victorien Thomas.
Le pays d'Amérique centrale a la pleine souveraineté sur son canal depuis 1999 après un accord signé avec les États-Unis justement. Un point que Donald Trump semble avoir oublié, mais le président panaméen José Raúl Mulino le lui rappelle dans sa réponse publiée sur X.
En tant que président, je souhaite exprimer clairement que chaque mètre carré du canal de Panama et de ses zones adjacentes appartiennent au Panama et continueront à lui appartenir. La souveraineté et l'indépendance de notre pays ne sont pas négociables.
Et quand le futur locataire de la Maison-Blanche s'inquiète de l'influence grandissante de la Chine sur le passage qui relie les Caraïbes au Pacifique, José Raúl Mulino rectifie.
Il n'existe pas de contrôle direct du canal par la Chine, l'Union européenne, les États-Unis ou toute autre puissance.
Une affirmation claire, le canal est et restera panaméen. À cela, Donald Trump a répondu sur son réseau Truth Social, une menace à peine dissimulée, je cite, « on verra ça ».
L'actualité en Europe à présent et en Allemagne, l'extrême droite se réunit et organise une manifestation mémoriale à Magdebourg pour les victimes de l'attaque à la voiture Bélier qui a fait 5 morts et plus de 200 blessés dans cette ville près de Berlin. Une attaque perpétrée par un psychiatre saoudien de 50 ans, installé depuis 2006 dans le pays et qui bénéficiait du statut de réfugié, ce qui a relancé le débat sur la sécurité et l'immigration dans le pays. Nous devons fermer les frontières, ont scandé les représentants de l'AFD, le parti d'extrême droite, devant plusieurs centaines de personnes. On termine ce journal au Japon, où les deux constructeurs automobiles Honda et Nissan ont officiellement ouvert les négociations en vue d'une future fusion, ce qui constituerait le troisième groupe automobile mondial derrière Toyota et Volkswagen. Honda et Nissan qui sont contraints de s'unir alors que leurs ventes s'effondrent, en Chine notamment, où les constructeurs chinois de voitures électriques ont le vent en poupe, la Chine premier marché mondial de l'automobile. Et si les négociations aboutissent d'ici juin 2025, Honda et Nissan qui se réuniront donc au sein d'une holding commune. Explication depuis Tokyo, signé Frédéric Charles.
Ce ne sera pas une fusion entre égaux. Elle sera menée par Honda. Sa valorisation en bourse est 4 fois plus élevée que celle de Nissan. Du Liban, où il est apparu par vidéoconférence sur un écran du club des correspondants étrangers à Tokyo, Carlos Ghosn, l'ancien patron de l'alliance Nissan-Renault-Mitsubishi, rend déjà son verdict. Nissan capitule en mode panique devant Honda, qui n'a aucune expérience des fusions. Foxconn, le géant taïwanais de l'assemblage électronique, fournisseur de Samsung, Apple, se fait une place dans la voiture électrique. Il veut prendre une participation dans Nissan ou racheter les quelques 35% du capital de Nissan détenu encore par Renault. C'est ce que croit savoir Batista Research, présent sur Smart Karma, la plateforme de recherche en ligne. Le Japon s'ouvre enfin aux fusions et acquisitions de ses entreprises par des groupes étrangers. Personne n'est en sécurité, affirme Nicolas Smith, le stratège de la banque CLSA à Tokyo. Mais dans le cas de Honda et Nissan, le gouvernement japonais préfère une consolidation entre Japonais. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Et un mot de football pour conclure. La plupart des championnats qui sont en pause, mais pas la Serie A italienne et l'Inter Milan qui sort d'un succès éclatant 6-0 contre la Lazio Rome qui accueille ce soir les mal classés de Côme. L'Inter qui peut revenir à 3 points de Bergame en tête du championnat en 4 victoires. Pour l'instant 0-0 après 20 minutes de jeu. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de RFI. Je vous laisse avec l'Odyssiard et Couleur Tropicale.